Suivez Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, premier service de transfert d'argent et de paiement mobile. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bienvenue, si vous nous rejoignez, l'antenne vous appartient comme tous les jours. RFI vous propose de commenter l'actualité. Dans 30 minutes, nous reviendrons une fois de plus sur la situation au Burundi, car pour tenter de désamorcer la crise, l'Union africaine demande le déploiement d'observateurs des droits de l'homme et d'experts militaires. Alors hier soir, le gouvernement burundais s'est dit prêt à travailler avec ces deux missions. Il pose tout de même des préalables. En revanche, pas question pour les autorités burundaises de fixer de nouvelles dates pour les élections présidentielles et législatives, alors que l'Union africaine réclame justement un nouveau calendrier électoral consensuel. Alors que pensez-vous de l'attitude du pouvoir burundais ? Des élections sont-elles finalement possibles dans ces conditions ? Je vous rappelle que nous sommes à 10 jours des élections législatives et à un peu moins d'un mois de la présidentielle. On va en parler ensemble. Vous nous appelez, vous êtes nombreux sur la page Facebook de l'émission. On vous attend tout aussi nombreux évidemment au standard 33 9 693 693 70 0 09 693 693 70, si vous nous appelez de France. Mais d'abord, ce sont vos questions à la rédaction, vos questions pour mieux comprendre, mieux décrypter l'actualité. On va commencer avec Ismaël qui nous appelle de Lubumbashi à l'est de la République démocratique du Congo. On va tendre l'oreille, le réseau téléphone n'est pas bon et il y a, vous savez, ce traditionnel décalage téléphone. Ismaël, bonjour.
Bonjour à moi-même, bonjour RFI et bonjour à tous les autorités de la radio du monde.
Merci de nous écouter dans l'Est de la RDC. Vous avez des questions concernant l'affaire Lydienne Yen Eyoum, du nom de cette avocate franco-camerounaise qui a été condamnée à 25 ans de prison ferme.
Exactement, monsieur Juan. La justice camerounaise a condamné l'avocate franco-camerounaise à 25 ans de prison. Alors, deux questions de sujet. La première question, pourquoi l'avocate avait-elle été condamnée ?
Alors, pourquoi a-t-elle été condamnée ? C'est vrai qu'on va essayer d'y voir un peu plus clair sur cette histoire qui dure maintenant depuis plusieurs années. Cela fait maintenant plus de 7 ans que cette avocate française d'origine camerounaise est écrouée. Elle a toujours clamé son innocence et la Cour suprême du Cameroun a confirmé récemment la condamnation à 25 ans de prison. Guilhem Delteil, bonjour.
Bonjour Juan.
Merci d'être avec nous. Que lui reproche-t-on exactement ? Il faut quand même préciser que cette avocate était considérée comme l'une des plus brillantes du barreau de Douala au Cameroun.
Oui, c'était un peu l'une des grandes figures du barreau de Douala. Alors Lydienne Yen Eyoum, d'ailleurs à ce titre, était avocate de l'État camerounais dans l'affaire qui lui est reprochée. Ces faits datent de 2004, il remonte assez longtemps en arrière. Lydienne Yen Eyoum donc avait été chargée alors par le ministère des Finances de procéder au recouvrement de sommes assez importantes. On parle d'un peu plus de 3 milliards de francs CFA. Ça portait en fait sur des fonds qui venaient de la liquidation de l'ex-office national de commercialisation des produits de base. C'est une instance publique qui a donc été liquidée. Les fonds avaient été ensuite versés sur un compte de la Société Générale de Banque du Cameroun. C'est une filiale de la banque française Société Générale. Mais la banque avait bloqué ces fonds, avait refusé de les verser, de les restituer à l'État. S'en est donc suivi une procédure judiciaire qui avait été menée donc pour le compte de l'État par Lydienne Yen Eyoum. La Cour a finalement sommé la banque de transférer 2 milliards 155 millions de francs CFA à l'État, et c'est Lydienne Yen Eyoum qui a procédé au recouvrement.
Alors sur cette somme, en tant qu'avocate, elle a réussi finalement à avoir gain de cause au nom de l'État camerounais. Donc si je comprends bien, cette filiale de la banque française Société Générale au Cameroun a été contrainte donc à verser la somme que lui réclamait l'État.
Pas l'intégralité, en fait, puisque l'État réclamait 3 milliards 600 millions de francs CFA et en fait la Cour a condamné la banque à verser 2 milliards 155 D'accord. millions de francs CFA. Sur cette somme de 2 milliards 155 millions de francs CFA, Lydienne Yen Eyoum en a retenu la moitié, soit 1 milliard 777 millions à titre de dépenses. Ce sont en fait les frais de justice engagés pour un procès. Une décision en accord avec les autorités, selon la défense de Lydienne Yen Eyoum, qui a d'ailleurs versé au dossier une lettre de l'ancien ministre ministre délégué aux finances en charge du budget, Henri Ngoulou, demandant à l'avocate le versement de la moitié seulement de la somme du recouvrement, en attendant qu'il se mette d'accord sur ses honoraires. Mais l'opération Épervier, une opération de lutte contre la corruption menée par le Premier ministre et le président camerounais, rattrape alors un certain nombre d'interlocuteurs de Lidiane Niyoum, notamment l'ancien ministre des Finances, Polycarpe Abaaba, ou encore Henri Ngoulou, d'ailleurs, dont la lettre a été versée au dossier. Henri Ngoulou, qui est mort depuis en détention. Alors, Lidiane Niyoum, elle, est arrêtée en 2010, accusée de détournement de fonds publics, portant donc sur cette somme d'un peu plus d'un milliard de francs CFA. Elle a été jugée en juin dernier par le tribunal criminel spécial qui avait été mis en place par les autorités pour juger ces délits financiers. La peine a été prononcée en septembre, 25 ans de prison, mais confirmée donc la semaine dernière par la Cour suprême.
Voilà, donc pour ce que lui reproche la justice camerounaise. Ismaël, vous avez une dernière question ?
Tout à fait, M. Rouen. Ma deuxième question est celle de savoir quelle est la réponse du gouvernement camerounais sur les rapports de l'ONU qui qualifient cette condamnation étant comme une arrestation.
Oui. Le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies qui avait effectivement déclaré illégale et arbitraire l'arrestation et la détention de cette avocate, qu'a répondu le gouvernement camerounais?
Alors, eh bien, il faut savoir que c'est un groupe de travail qui dépend de ce Haut Commissariat pour les droits de l'homme qui a rendu cet avis, un groupe de travail sur la détention arbitraire. Et pour le gouvernement camerounais, eh bien, ce groupe de travail est un organe consultatif qui rend des avis et non des décisions de justice. Il n'engage donc en rien le gouvernement camerounais. C'est ce qu'a répondu le ministre de la Communication, Issa Tchiroma Bakary, pour qui cette décision ne doit surtout pas être interprétée non plus comme un acquittement de Lidiane Niyoum par l'ONU. Alors, il est vrai que sur le fond, l'ONU ne se positionne pas sur l'éventuel détournement de fonds publics, mais bien sur la procédure en elle-même et la légalité de la procédure. Ce groupe de travail, il avait été saisi par l'avocate française de Lidiane Niyoum, maître Caroline Wasserman, et le cas a été revu donc fin avril par le groupe de travail qui a donc rendu cet avis, qui avait demandé au gouvernement camerounais de faire des réponses. Le gouvernement camerounais a demandé une prorogation du délai pour répondre à cet avis du groupe de travail de l'ONU. La prorogation a été refusée, donc finalement l'avis est devenu a été validé par le Conseil des droits de l'homme. Le gouvernement camerounais précise tout de même que le travail avec l'ONU se poursuit pour faire entendre sa voix dans le dossier Lidiane Niyoum.
À suivre donc. Merci Guilhem Delteil d'être venu répondre à Ismaël, qui nous appelait de Lubumbashi. D'autres questions à la rédaction. On va s'intéresser à la Hongrie maintenant, avec nos standards. David, bonjour.
Bonjour, monsieur Gomez, et à tous les auditeurs de la Radio Mondiale.
On vous écoute, soyez le bienvenu. Vous nous appelez, vous, de Bounia. Bounia, c'est également République démocratique du Congo. On vous écoute.
Tout à fait. J'ai des questions par rapport à la relation diplomatique entre la Hongrie et l'Union européenne. La première question est celle-ci. Je voudrais juste savoir si l'Union européenne a le droit d'intervenir dans les affaires politiques des pays membres. Et la seconde est celle de savoir quel type de sanctions l'Union européenne peut-elle poser de ces pays membres.
Ouais. C'est vrai que la Hongrie est dans le collimateur de l'Europe. Bonjour Béatrice Leveillé.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste au service international. Récemment, le Parlement européen, dans une résolution, demande à la Commission européenne de déclencher, je cite, immédiatement un processus de surveillance approfondie de la Hongrie. En toile de fond, il y a évidemment notamment les respects des droits de l'homme, la bonne gouvernance, la liberté de la presse, etc., etc. Comment expliquer un tel mécanisme?
Les États membres, en fait, s'engagent à respecter un certain nombre de règles qu'ils ont définies eux-mêmes ou alors auxquelles ils ont adhéré en paraphant leur adhésion à l'Union européenne. Et l'Union européenne peut donc mettre au banc de l'Union européenne ou encore à l'amende des pays qui ne respectent pas leurs engagements, des engagements qu'ils ont pris notamment en matière de droits de l'homme.
Et l'un de ses engagements, c'est justement l'abolition de la peine de mort. Il se trouve que le Premier ministre Viktor Orban tient absolument à relancer le débat sur la peine de mort dans son pays.
Oui, c'est pas fait encore. Hein. Oui. Il a menacé de le faire. Là, plus concrètement, il est en train de construire un mur avec la Serbie pour empêcher les migrants d'entrer dans son pays. Là, c'est du concret. Mais là, il est toujours dans les cordes puisque d'autres États l'ont fait, comme l'Espagne, à Ceuta et Melilla, ou la Bulgarie. Donc finalement, il est toujours en train de jouer avec la ligne rouge.
Ouais. Et alors, il joue avec la ligne rouge justement sur les questions d'immigration, le rétablissement de la peine de mort. Lui dit, bon, pour l'instant, moi, ce que je veux, c'est susciter le débat dans mon pays. On parle effectivement de sanctions. À quoi peut-on s'attendre?
Alors, les populistes, l'extrême droite a parfois été sanctionnée. La première fois, c'était en l'an 2000 avec Jörg Haider en Autriche. Son parti, le Parti de la Liberté, qui était un parti d'extrême droite, est entré au gouvernement. Et à ce moment-là, l'Autriche a vraiment été mis au banc. Plus de contacts diplomatiques, suspension des relations bilatérales. On n'a plus entendu parler de l'Autriche jusqu'à ce que l'extrême droite quitte le pouvoir. Et là, c'était en fait des dérapages verbaux. C'est un des gens. Jörg Haider avait été encore beaucoup plus loin que ne l'a été jusqu'à présent Viktor Orban. Et les raisons qui étaient invoquées pour mettre l'Autriche de côté, bien c'était que le parti de Monsieur Haider était inspiré par une idéologie qui était à l'opposé des valeurs d'humanisme, de respect de la dignité de l'homme qui fonde l'Union européenne.
Voilà. Donc ça c'était pour l'Autriche. Concernant la Hongrie, pour l'instant il n'y a pas de sanctions en vue, mais voilà, il va y avoir donc ce mécanisme de surveillance qui sera probablement mise en place, et d'ici le mois de septembre, il y aura peut-être des décisions qui seront prises.
Oui, ça va aussi un peu plus loin. Au Conseil, on a vu Jean-Claude Juncker, qui est le président de la Commission européenne, accueillir Viktor Orban en le traitant de dictateur, en rigolant. Mmh. Mais bon, c'est vrai qu'entre chefs d'État et de gouvernement, ils se bousculent aussi. Ils se réunissent très souvent, ils prennent des décisions, et à ce moment-là, il y a des pressions qui sont assez fortes aussi.
À suivre donc. Merci beaucoup, Béatrice Leveillé. On souhaite une bonne journée à David, qui nous appelait de Bounia, en République démocratique du Congo. N'oubliez pas, dans 20 minutes maintenant, notre débat sur la situation au Burundi. Des élections sont-elles possibles dans les conditions actuelles? Les législatives sont prévues dans 10 jours et la présidentielle dans moins d'un mois. 33 9 693 693 70. Bonjour Olivier Roger.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
Merci de nous rejoindre. Vous êtes journaliste au service Afrique d'RFI. Sadou nous appelle d'Accra. Bonjour Sadou.
Bonjour, monsieur Wang. Bonjour, RFI.
Vous avez des questions concernant le retour annoncé de l'ancien chef de la junte guinéenne, Moussa Dadis Camara.
Exactement.
On vous écoute.
J'ai appris sur l'antenne de RFI que Moussa Dadis Camara sera reçu en Guinée entre le 20 et le 25 heures pour présenter sa candidature. En tenant cette sujet, j'ai deux questions. Ma première question, de savoir où met-on l'enquête dans l'événement du 28 septembre 2009 dernier, lorsque Moussa Dadis.
Alors, le réseau téléphone est très très mauvais. On est désolé, Sadou, mais on a compris l'essentiel. Vous voulez savoir où en est l'enquête de la justice guinéenne sur les événements du 28 septembre. C'est vrai que Moussa Dadis Camara veut mettre fin à son exil au Burkina Faso. Il veut être candidat, comme le disait à l'instant Sadou, candidat à la présidentielle d'octobre prochain. Le problème, c'est que le nom de Moussa Dadis Camara est cité dans les événements du 28 septembre 2009. On rappelle que ce jour-là, l'opposition mobilise la population, 35 000 personnes dans le plus grand stade de Conakry, mobilisation pacifique, et là, les militaires ouvrent le feu. Il y a au moins 157 morts, des centaines de femmes violées, et à l'époque, des faits, Moussa Dadis Camara était le chef de l'État, c'était lui qui dirigeait la junte. Alors, où en est l'enquête sur ces événements?
Alors, cette enquête est longue, elle est laborieuse, mais elle avance, et elle avance plutôt mieux en ce moment qu'il y a quelques années. Cependant, on ne sait toujours pas quand pourra être organisé le procès des auteurs des crimes du 28 septembre 2009 et des semaines qui ont suivi, parce qu'il y a eu aussi beaucoup de disparitions et de crimes commis dans les camps militaires les semaines suivantes. Cela fait 5 ans qu'un pool de 3 juges d'instruction travaille sur cette enquête. Ils ont auditionné plus de 400 témoins et victimes, et ils ont inculpé jusqu'à présent 12 personnalités présumées responsables de ces crimes.
Oui, et l'enquête a démarré donc 5 mois après les faits, en février 2010. Hein.
Oui, quelques jours avant l'arrivée à Conakry de Fatou Bensouda, qui était alors procureur adjointe à la CPI. Le procureur général de la Cour d'appel de Conakry ouvre une information judiciaire contre Toumba Diakité et les autres, je cite, il nomme trois magistrats chargés de mener l'enquête. Rappelons qu'à l'époque, nous sommes encore dans un régime d'exception. Sékou Ba Konaté, le copain de Dadis Camara, exerce les fonctions de président et la thèse officielle consiste à accuser Toumba Diakité, qui était chef de la garde présidentielle et qui surtout avait tiré sur Dadis Camara en décembre 2009.
Ouais, ce qu'il faut dire, c'est qu'au début, l'enquête n'avance pas.
Le démarrage est laborieux. Les juges n'ont pas les moyens matériels de travailler. La pression de la junte est très forte. Les témoins ont peur. Donc, en fait, le rythme d'inculpation est très lent. Il faudra attendre 2013, pour voir tomber les premières inculpations au sein de la junte. Le lieutenant-colonel Tiegboro Camara, le colonel Claude Pivi, chef de la sécurité présidentielle, le colonel Abdoulaye Chérif Diaby, qui était alors ministre de la Santé du CNDD, cette junte, sont auditionnés et inculpés.
Alors, comment peut-on expliquer ce changement soudain?
D'abord, la pression de la CPI, pression constante, elle critique la lenteur de la justice guinéenne, elle lui dit, si vous ne travaillez pas mieux, on va prendre le dossier. Et puis, il y a le travail d'organisations comme la Fédération Internationale des Ligues des Droits de l'Homme, la FIDH, qui épaule les victimes et les témoins d'un côté, mais qui aussi fait un plaidoyer constant auprès de la justice guinéenne pour qu'elle fasse de ce dossier un dossier exemplaire. Et puis, au fil des années, la volonté politique s'affirme et devient de plus en plus forte. Le tournant, c'est l'arrivée de Cheikh Sakho au ministère de la Justice. Non seulement cet homme affirme et réaffirme que la justice guinéenne respectera ses engagements pris envers la CPI, mais en plus il entame une série de réformes dans le secteur de la justice, à la fois pour moderniser les structures, augmenter les salaires, moderniser les carrières et notamment les différents codes comme le code pénal. Donc il donne quelque part confiance à la justice et fin 2014-2015, on a une nouvelle accélération des procédures.
Ouais. En tout cas, il y a encore beaucoup de zones d'ombre, il reste encore beaucoup de travail.
Beaucoup de points à élucider. Par exemple, où sont les centaines de personnes qui ont disparu dans les camps de l'armée et de la police dans les semaines qui ont suivi le massacre? On sait que beaucoup de personnes ont disparu, mais on n'a pas retrouvé les corps. Mmh. On sait que les registres des morgues d'hôpitaux ont été falsifiés. Par qui? Pourquoi? Où sont les fosses communes? Et puis, cette fameuse question, verra-t-on un jour devant le pool de juges d'instruction Moussa Dadis Camara ainsi que Toumba Diakité, puisqu'il est finalement la première personne à avoir été inculpée dans cette affaire? À toutes ces questions, la justice guinéenne doit répondre, et en tout cas elle est attendue au tournant parce que beaucoup de gens, et notamment la CPI, estiment que le procès du 28 septembre doit être un procès exemplaire afin que la justice guinéenne tourne la page, se modernise et entre enfin dans le 21e siècle.
Et on aura l'occasion d'en parler demain dans la Libre Antenne. Le vendredi, vous commentez l'actualité de votre choix, et je sais que vous êtes nombreux à souhaiter revenir sur ces événements. Merci beaucoup, Olivier Roger. Nous accueillons Georges, qui est au Cameroun, à Douala exactement. Bonjour, Georges.
Oui, bonjour, Juan Gomez. Bonjour à tous les auditeurs d'Après sur l'actualité. Effectivement, je suis à Douala.
Et vous avez des questions concernant le 49.3, l'article, cet article de la Constitution française qui permet au gouvernement de contourner le vote des députés. Et d'ailleurs, cette semaine, Manuel Valls l'a dégainé.
C'est exact. L'article 49.3 fait beaucoup de remous et je voudrais savoir, est-ce que cet article, l'utilisation de cet article n'est-elle pas un processus antidémocratique, et comment est-ce que l'opinion française la perçoit?
Ah, bonjour Didier Mauss.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur de droit constitutionnel à l'université Aix-Marseille. Alors Manuel Valls a dégainé pour la deuxième fois ce fameux article. Est-il antidémocratique puisqu'il permet finalement de faire adopter sans vote un projet de loi?
Écoutez, dans le cas d'espèce, on ne peut pas dire que ce soit fondamentalement antidémocratique. Il y a eu des centaines d'heures de débats d'ores et déjà sur la loi Macron, mais en même temps, c'est vrai que lorsque l'on empêche l'Assemblée nationale de discuter, de délibérer, de voter article par article, amendement par amendement, il est logique que d'une part l'opposition et quelques éléments de la majorité, on le voit aujourd'hui, disent ceci est anormal et c'est antidémocratique. Mais l'article 49 alinéa 3, il faut toujours le rappeler, a été inventé et inscrit dans la Constitution en 1958 pour porter remède à une situation tout à fait dommageable de la 4ème République. C'était le cas où un texte était rejeté et le gouvernement n'était pas renversé. Mmh. Il y a des jours où le Premier ministre doit dire aux députés, prenez vos responsabilités.
Oui. En même temps, on se souvient que François Hollande, en 2006, à l'époque il était patron des socialistes, il dénonçait le 49.3 qui avait été utilisé par Dominique de Villepin, Premier ministre, sur le CPE. Il disait que c'était un déni de démocratie.
Oui, mais écoutez, si vous prenez l'ensemble des déclarations faites par les hommes politiques sous la Ve République, vous trouverez qu'elles ne sont pas exactement les mêmes quand ils sont dans la majorité ou dans l'opposition. Oui. Et si il y a une alternance dans les 10 ans qui viennent, et bien sur le même problème, vous inverserez les discours et vous retrouverez le même contenu.
Didier Mauss, est-ce que votre agenda vous permet d'être avec nous juste après le journal, dans 10 minutes?
Absolument.
Très bien, on vous retrouve ainsi que Georges, qui a d'autres questions à vous poser. À tout de suite.